France Culture.
Un nouveau livre qui arrive sur une table va rester en moyenne 40 jours sur une table. Donc vous imaginez bien que 40 jours entre le temps de lecture, le temps que les médias s'en emparent, le temps que la curiosité du lecteur s'éveille, c'est pas suffisant. La surproduction est clairement un problème d'écologie du livre.
L'écologie du livre, réalité, essai ou fiction? À l'occasion des rencontres internationales pour l'écologie du livre qui se déroulent à Strasbourg, capitale mondiale du livre UNESCO 2024, nous nous sommes installés dans la capitale alsacienne pour questionner la filière livre et sa durabilité, de l'industrie forestière aux acheteurs lecteurs. Un écosystème constitué d'acteurs multiples qui, tous à leur niveau, sont de possibles leviers pour engager cette écologie du livre devenue indispensable à l'heure du réchauffement climatique et des enjeux environnementaux. Avec nous pour en parler et regarder aussi du côté des solutions, Anne-Marie Bock, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef de projet pour Strasbourg, capitale mondiale du livre. Merci d'être avec nous. Mélanie Mazan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coordinatrice de l'association pour une écologie du livre et vous êtes ancienne libraire. Et avec nous également Charles Edouin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éditeur, ancien libraire, co-créateur de la fresque du livre et consultant RSE. Merci à tous les trois, merci à nos auditeurs qui nous suivent. C'est le magazine de l'environnement de France Culture, en partenariat avec le journal Le Monde, préparé par Corinne Amar et Célestine Babinet, avec la collaboration de Vanessa Chang et les équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique, depuis les studios de Ici Alsace, Bertrand Aguilar.
Le déclic, il a eu lieu il y a maintenant plus de 10 ans. Quand j'assistais à une conférence liée sur les questions de crise climatique, on voit les problématiques d'accélération des flux, la perte de biodiversité, etc. Et je me dis, mais en fait, moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, on parlait par exemple de surproduction.
La surproduction des livres, c'est clairement une problématique qui est importante dans votre profession de libraire.
Oui. En fait, on a vu une accélération depuis les années 90-2000 de la production de titres différents et aussi en volume. Il y a de plus en plus de livres, de ce qu'on appelle nous des livres de reproduction. Très clairement, c'est la question de la mode. Beaucoup d'éditeurs s'engouffrent dans la brèche et reproduisent le même type de livre.
C'était la voix de Anaïs Massola, libraire à Paris et présidente de l'Association pour l'écologie du livre. Elle était interviewée sur France Culture le 31 janvier 2025. Le Rideau Rouge, c'est le nom de sa librairie située dans le 18e arrondissement à Paris. Alors, votre déclic, peut-être, à vous, on peut commencer par vous, Mélanie Mazan, puisque vous connaissez bien Anaïs Massola.
Mon déclic pour l'écologie du livre, eh bien, c'est quand j'ai entamé ma reconversion en tant que libraire, il y a maintenant 5 ans. Je venais plutôt du secteur des politiques publiques, côté politique publique environnementale. Et puis j'avais décidé de changer de métier parce que je trouvais que ça n'allait pas assez vite. Et puis une sorte de sentiment d'impuissance dans les politiques publiques. Et donc j'avais envie d'un métier qui a du sens. Et puis j'ai découvert le métier de libraire. Et je suis tombée de haut, puisque le métier de libraire n'est pas celui auquel on croit. Il y a une sorte de fantasme. Et j'ai découvert derrière une économie industrielle, on va en reparler, un flux de nouveautés, un métier où on n'a pas le temps de lire. Et là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au sujet.
Charles Edouin, le même constat pour vous, le déclic, c'était à quel moment?
Alors, plutôt dans mon apprentissage en tant qu'éditeur, dans un master d'édition, le premier en France de Villetaneuse à Paris 13, où tout simplement je travaillais pour des maisons de beaux livres d'art, et ces beaux livres, on les produit en Chine aujourd'hui. Ça met un temps dingue à venir en porte-conteneur au Havre pour être distribué en centrale depuis Paris dans le reste de la France. Je viens moi-même du Havre, donc j'ai vu peut-être trop de porte-conteneur dans ma vie. Et aussi dans d'autres postes ensuite, éditeur de revues de sciences humaines et sociales, où il faut détruire les stocks parce qu'il n'y a pas eu assez d'abonnements, pas eu assez de ventes au numéro. Donc des moments un petit peu charnières pour moi.
Et donc trop de production, on en parlera aussi. Anne-Marie Bock, de votre côté, avant votre casquette de chef de projet pour Strasbourg, capitale mondiale du livre.
Alors effectivement, pour moi, cette prise de conscience a été le fruit d'un long processus. Mon cœur de métier est celui que j'ai exercé avant d'être chef de projet Strasbourg, capitale mondiale du livre. J'ai dirigé des bibliothèques, les bibliothèques publiques, de façon assez tôt, en fait, se sont posé la question de façon très opérationnelle. Pourquoi plastifier les livres? Et elles sont aussi en bout de chaîne dans cette chaîne de production qu'on va évoquer aujourd'hui. Et comme un peu les libraires, mais différemment, avec une demande sociale d'avoir des nouveautés dans un temps très court. Donc pour ma part, ça a été un long processus. Et puis, au moment de travailler sur le contenu de la candidature de la ville de Strasbourg, avec le réseau des partenaires locaux, et notamment un de nos partenaires qui est la région Grand Est, eh bien, localement, il y a eu un intérêt pour ce sujet, et les contributeurs, les parties prenantes de ce projet au de candidature à ce moment-là, au label Strasbourg Capitale Mondiale du Livre, en ont fait un axe qui était très important pour eux, d'où aussi un programme au sein du label qu'on a appelé Lire pour la planète.
Eh bien, parlons-en justement. Strasbourg est la première ville française capitale mondiale du livre UNESCO, l'une des premières à avoir considéré donc la question du livre écologique. Au départ, il y a cette idée, Lire pour la planète. Ça vient d'où concrètement? Et depuis un an aussi, dites-nous comment Strasbourg a vécu au rythme de cette thématique.
Alors en fait, il faut savoir que c'est un projet, certes le label c'est pour l'année 2024, mais néanmoins, au regard de l'UNESCO, et d'ailleurs c'est vraiment notre parti pris, il s'agit d'un processus de transformation sur le long cours, sur le long terme. Et dès 2022, quand nous avons réalisé le projet de candidature, il y a eu, on va dire localement, une forme de coopération, en tout cas un dialogue qui s'est institué. Et à partir de là a été élaboré un des 25 programmes. On travaille sur 5 axes. Un des axes stratégiques, c'est Strasbourg, ville de la transformation écologique. L'idée qui sous-tend cet axe-là, c'est de ne pas opposer tout ce qui relève des enjeux sociaux, des enjeux démocratiques, aux enjeux culturels et au final, au développement du livre et de la lecture. Donc à partir de là, depuis 2022, nous avons en fait construit les contenus de cette programmation, d'où effectivement ces rencontres de l'écologie pour le livre, mais à l'échelle d'une ville, il y a déjà beaucoup d'ingrédients qui sont des forces en présence, j'ai envie de dire, qui sont des acteurs de cette transformation et qui jusqu'ici peut-être avaient chacun dans leur sillon des actions isolées. Et notre rôle a été au final de les amener à coopérer et de mettre en synergie un ensemble d'initiatives, que ce soit les imaginaires liés à la forêt, que ce soit bien entendu la chaîne du livre local, qui est également très assez dense. Donc, depuis 2022, on déploie progressivement ce programme Lire pour la planète avec sa phase conclusive qui a été travaillée avec plus d'une vingtaine d'acteurs dans un comité scientifique.
Une filière qui fait entendre des voix, on le comprend, on le perçoit de plus en plus pour cette écologie du livre. Mélanie Mazan, vous pouvez nous parler peut-être de l'association pour l'écologie du livre qui rassemble nombre de ces voix, auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, graphistes, illustrateurs, fondée en 2018-2019 je crois.
Oui, pour présenter rapidement l'association, donc c'est une association interprofessionnelle des métiers du livre et de la lecture qui œuvre à la transformation écologique de la filière du livre. Donc on est vraiment sur la question des pratiques professionnelles en collectif, la transformation des pratiques en collectif. L'association, elle est née de la rencontre d'éditeurs et de libraires engagés qui publiait, diffusait, vendait des ouvrages portés sur l'écologie radicale, l'écologie politique, les humanités écologiques. Et il y a eu ce questionnement de se dire, justement, est-ce que nos pratiques professionnelles sont en accord avec les livres qu'on défend? La réponse était en grande partie non. Donc ça a un peu démarré les discussions. Ça a démarré avec une quinzaine d'acteurs et d'actrices à peu près. Donc il y avait vraiment au démarrage et toujours un peu trois niveaux, trois axes. Donc la cohérence des pratiques et des approches politiques, la question d'adapter la filière au contexte écologique actuel, c'est-à-dire qu'on fait face à des crises écologiques et aussi sociales et démocratiques, comme disait Anne-Marie, qui sont de plus en plus graves et qui impactent la filière. On peut parler de la crise du papier, peut-être qu'on en reparlera plus tard. Et donc comment on anticipe ces problématiques-là en tant qu'acteur du livre et de la lecture, sachant que on a une partie des acteurs et des actrices qui ont les moyens financiers de faire face à ces crises et d'autres qui ne les ont pas ou qui en ont moins, notamment le secteur du livre indépendant, petits éditeurs, petits libraires.
On va en parler justement de ceux qui sont dans cette catégorie éditeurs indépendants, bien sûr.
Tout à fait. Et derrière, le troisième axe, qui est peut-être plus prospectif, c'est l'idée de se dire on va puiser dans les pensées de l'écologie, donc dans l'écologie politique, pour le dire plus simplement, et on va s'autoriser à plus 30 ans, plus 50 ans, à imaginer un écosystème du livre et de la lecture vraiment écologique.
Donc les livres post-pétrole.
Exactement. À quoi ressemblera le livre post-pétrole ?
Charles Edouin, de votre côté, la fresque du livre a été lancée à l'été 2023. Parlez-nous peut-être du rôle joué pour l'heure, parce que vous n'avez peut-être pas encore beaucoup de recul, mais vous percevez certainement ce que ça a pu produire auprès de ceux qui ont été face à cette fresque du livre qui sensibilise quand même.
Tout à fait. Alors pour le coup, j'ai été membre de l'association pour l'écologie du livre dès 2019. Et effectivement, je reconnais l'énorme travail qu'ils font pour l'interpro. Et on a souhaité à un moment dépasser cette interprofessionnalisation pour sensibiliser peut-être plutôt le grand public et ou les professionnels qui sont plutôt au niveau zéro de cette prise de conscience des conséquences et des impacts sociaux environnementaux de la filière, des métiers. Donc cette fresque du livre, elle vient d'une idée proposée à Fontaine au Livre, qui a un organisme de formation, une pépinière du livre, dans le 11e à Paris. Je remercie d'ailleurs Gaël Bouet d'avoir fait confiance à ce projet. Je l'ai lancé tout simplement avec eux parce que j'étais devenu consultant, moi, RSE, donc le développement durable pour les entreprises, auprès d'autres secteurs. Et via des expériences avec la fresque du climat, la co-création de la fresque de la publicité, de la fresque du marketing aussi, il y a beaucoup beaucoup d'ateliers qui se créent. Pour redonner un petit peu de contexte à tout le monde, la fresque du climat, ça a été créé en 2015 par Cédric Ringenbach, qui est un atelier de sensibilisation sur les causes et conséquences, non pas les causes et les effets ici aujourd'hui, les causes et conséquences des dérèglements climatiques, et via l'activité humaine, tout simplement, ce que les rapports du GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, 3000 à 5000 pages tous les 5 à 6 ans, c'est un petit peu indigeste pour le grand public. Donc cet ingénieur, il s'est proposé de faire un jeu.
Même s'il y a des résumés.
Tout à fait.
Hein, qui sont plus concis.
Tout à fait. Aller voir celui de Pour un réveil écologique ou du Média Vert ou d'autres que j'oublie de citer, qui ont fait des très bons résumés. Mais malgré tout, un jeu de cartes, c'était ce qu'il y avait encore de plus simple et de plus ludique et interactif pour faire comprendre à tout le monde ces enjeux-là et donner des prises de conscience à toutes et tous. Donc après avoir fait celle de la publicité, du marketing, alors d'un côté pour la régie publicitaire de TF1, de l'autre pour l'ADTEM, qui est une association de professionnels du marketing responsable, je m'étais dit que c'était dommage que la filière du livre n'en ait pas. Donc le but de cette fresque, c'est non pas d'avoir des rapports du GIEC, du livre, à donner à tous les participantes et participants, mais c'est plutôt de se dire tout simplement, je dois faire un livre, par qui, par quoi je passe, et quelles sont ce qu'on appelle les externalités négatives, comme positives d'ailleurs, de cette filière. Donc on reprend tous les maillons. Voilà, on prend vraiment par la main, on va jusqu'à des questionnements d'éco-conception, parce qu'il ne suffit pas de mettre la couleur verte sur une couverture pour dire que son livre est écologique, jusqu'à les impacts du livre numérique, qui sont pas si évidents que ça par rapport au livre papier, jusqu'aux impacts de la bibliodiversité, du livre d'occasion. On reprend tous les acteurs, tous les phénomènes, et on essaye de sensibiliser au plus large.
Quand on parle de l'industrie du livre, aujourd'hui, de quoi parlons-nous ? C'est quoi cette chaîne, en fait, de bout en bout ? Charles Edouin.
Alors, je suis ravi de cette question, merci beaucoup, parce qu'il y a énormément de métiers invisibilisés dans cette fameuse chaîne du livre, qui est un terme qu'on n'aime pas beaucoup. Enfin, je crois pouvoir parler en notre nous, autour de la table.
Même si ce sont des maillons, et l'interdépendance, elle est intéressante, parce que tout le monde dépend des autres, et c'est à ce niveau-là qu'il faut imaginer la durabilité.
Mais allez-y. Et l'enjeu, et j'espère qu'on conclura peut-être là-dessus, le but étant d'avoir des interdépendances choisies, et non plus subies, donc plutôt parler d'écosystème du livre, restons dans le thème. Et effectivement, cette chaîne faite de maillons, très souvent dans la tête des lectrices et des lecteurs, c'est une autrice ou un auteur. Voilà, le manuscrit tombe du ciel, il faut absolument le publier, le mettre dans les mains du plus grand nombre. Or, c'est très très souvent, et on commence comme ça d'ailleurs à la fresque du livre, une rencontre entre une structure éditoriale, qui peut être une maison d'édition au sens propre du terme, mais qui peut être aussi une association, une entreprise, une radio qui a envie de publier un livre, que sais-je. Souvent même, ce sont principalement des commandes. Je dois créer un livre, par exemple, le tourisme en Syrie. Voilà, je prends l'expert du sujet, je lui demande de me faire un livre dans une collection spécifique. Voilà, c'est très très peu l'imaginaire de l'être littéraire qui aurait pondu le plus beau texte du monde et qui est repéré par une éditrice ou un éditeur. Donc d'abord, la chaîne commence comme ça. Ensuite, on va avoir plein de personnes qui vont travailler à mettre en forme. Alors déjà les assistants, assistantes d'édition, les éditeurs, éditrices, directrices, directeurs de collection. Mais ensuite on va avoir des graphistes, des compositeurs, compositrices, traducteurs, traductrices, graphistes, maquettistes qui vont composer l'ouvrage pour qu'il ait une matérialité, qu'elle soit numérique ou matérielle d'ailleurs. Et ensuite on va avoir les imprimeries. Il y a d'abord des directrices et des directeurs de fabrication pour faire des devis, pour faire des descriptifs techniques, pour que l'imprimerie comprenne bien l'objet qu'on veut. Ensuite, il va y avoir des diffuseurs qui vont d'abord faire connaître le livre. Mmh. Après, des distributeurs, distributeurs qui vont envoyer le livre au point de vente. Ensuite, les points de vente qui sont extrêmement variés, diversifiés. Ces points de vente, ils vont peut-être pas forcément tout vendre. Donc, on va repasser par les distributeurs, distributrices, les stocks, et ainsi de suite. Les points de vente, ça peut être aussi des points de service public, les médiathèques, les bibliothèques. Ouais. On a plein de gens.
Donc ça, c'est la chaîne du livre. Mélanie Mazan, vous parliez des maisons indépendantes. Est-ce que vous avez un chiffre peut-être à nous donner? Elles sont combien à peu près? Parce qu'il y a quand même les gros groupes. Hein. Il faut quand même dire que l'édition s'est concentrée, financiarisée, massifiée, ça aussi. C'est important de le dire. Un monde enfermé dans des logistiques de flux, on aura l'occasion d'en parler. Et donc, quelques maisons indépendantes?
Alors, les maisons indépendantes, il y a une querelle de chiffres, mais en fait, on ne sait pas trop. Environ 400 qui ont plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, donc qui vivent de leur activité. Et effectivement, le marché est dominé par des groupes d'édition. Donc, pour vous donner juste une idée, on a les quatre premiers groupes d'édition financiarisés qui détiennent 70% du marché de l'édition en France et rien que 39% pour Hachette. Et je voulais juste rebondir sur ce que disait Charles et la question de l'industrie. En fait, ce qui est un peu étonnant, c'est que le livre, dans l'imaginaire collectif, est un objet noble. Il a une force symbolique très importante. Et donc, on imagine que le livre, en plus, il est fait de papier, donc il est quand même un matériau noble. Et donc, on oublie souvent que derrière, il y a une industrie. Or, peut-être que la branche qui n'a pas été dite par Charles, le livre est fait de papier et donc il est adossé à l'industrie papetière. Et donc peut-être c'est là que l'impact environnemental, en tout cas, et carbone est important, mis à part les questions de transport, de flux, mais c'est lié. Et donc cette industrie papetière, elle est extrêmement polluante, consommatrice en énergie, etc. Et derrière, les enjeux forestiers, bien sûr, qui font aussi partie du problème.
Exactement, une filière qui repose sur cette industrie polluante aux impacts climatiques et environnementaux identifiés et donc à commencer par la forêt.
Ah, les petits champignons. Si je sais pas ce que c'est, du lamelle, ça, je sais pas ce que c'est.
Nous, quand on a acheté, on se disait, bon, on enrichit un peu, on a pris des sauvageons. Les sauvageons, c'est des plants sauvages de régénération naturelle qu'on a trouvés à côté. Donc, on a déplacé des hêtres, on a déplacé des épicéas, on a déterré des sapins pectinés. On a fait nos tests d'enrichissement. Ça a plus ou moins marché. Et après, on a laissé tomber parce que l'entretien, c'est quand même du temps et de l'argent. Et on voit, au bout de 7 ans, qu'il y a la nature qui a mieux fait mon job, on va dire, parce que les hêtres autour, c'est des arbres semenciers qui ont semé, qui ont recolonisé par milliers. Moi, si je devrais mettre l'argent pour planter tout ça, ça me coûterait trop d'argent. Donc là, c'est la nature qui a fait le travail à ma place. Moi, j'ai qu'à attendre et intervenir au bon moment pour faire du sélectif et favoriser les plus belles tiges. Notre projet, c'est quand même avec un objectif économique derrière. Mais il faut que ça soit durable avec le fonctionnement de la nature. Et c'est là où moi je vois un impasse dans le traitement classique de la filière où ça aboutit en coupe rase parce que ça demande trop d'apport d'énergie par l'homme. Tandis que dans un système forestier normal, on n'a pas cet effort à faire. C'est ça l'intérêt de jouer avec ce qu'on voit, avec ce qui marche et pas le détruire pour mettre encore plus d'efforts et plus de moyens financiers pour peut-être échouer au bout de 20 ans. Moi, je ne prendrai pas ce risque. J'applique ce qui me semble du bon sens.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Reportage intitulé « Forêt française en quête d'avenir » diffusé sur Public Sénat le 21 mai 2022 et on entendait la voix de l'ingénieure des eaux et forêts Suzanne Braun. Cette gestion des forêts, elle est souvent évoquée, hein, et la question aussi de déforestation en général sur la planète est pointée du doigt. La filière livre a-t-elle des responsabilités en la matière? Mélanie Mazan?
Oui, quand même. Pour nuancer un petit peu ce que je vais dire, le livre, le papier édition, c'est une toute petite partie de l'industrie papetière en général.
C'est 7% de la consommation de papier en France, il faut le mentionner effectivement.
Tout à fait, mais il n'empêche que ça n'empêche pas de faire face à ses responsabilités. Historiquement, et c'est ce que vous pourrez voir dans certains documents de communication de l'industrie papetière, on utilisait, quand on a commencé à faire du papier avec du bois, on utilisait ce qu'on appelle du bois de trituration, c'est-à-dire les déchets, les petites branches qu'on ne pouvait pas utiliser pour le bois d'ameublement ou de charpente. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Déjà parce qu'on a beaucoup trop de demandes, et ensuite parce que aujourd'hui, on est dans des tels volumes mondialisés, etc., qu'on s'est mis en fait à produire du bois spécifiquement pour l'industrie papetière. Donc aujourd'hui, les nouveaux leaders, c'est l'Asie du Sud-Est, le Brésil. Donc ce sont des plantations, nous on appelle ça des industries forestières, puisque c'est du bois qui est planté spécifiquement pour ça, qui pose beaucoup de questions environnementales, puisqu'on est sur des monocultures OGM, parfois clonées. Au Brésil, c'est autorisé, qui font l'objet de coupes rases. Donc pour les sols, la biodiversité, c'est une catastrophe. Sachant qu'en plus, ce bois est produit à l'autre bout du monde, en tout cas en ce qui concerne la France. Et il va être ensuite utilisé pour produire de la pâte à papier, qui va faire aussi le tour du monde avant d'arriver aux papetiers, qui sont rarement en France eux-mêmes. Mais quand ils sont en France, ils achètent aussi de la pâte à papier sur le marché mondialisé. Donc on est vraiment sur des logiques économiques pour la question du papier qui sont mondialisées, financiarisées, et voilà.
Charles Edouin, vous nous parlerez peut-être aussi des labels, hein, FSC, PEFC, ou autres peut-être, il en existe d'autres, mais tout ça c'est censé garantir la légalité aussi du bois, la gestion durable. Bon, dites-nous aussi ce que ça vaut hein, dans vos propos.
Tout à fait, je vais essayer d'être le plus vulgarisateur possible en utilisant le moins d'acronymes, mais malgré tout ils sont intéressants pour comprendre un peu les enjeux. Merci Mélanie de ce que tu rappelais. J'ajouterai aussi les enjeux sociétaux, parce qu'effectivement la gestion illégale de forêt, c'est la perte d'emplois, de revenus, de biodiversité évidemment. Ne vous laissez jamais dire que les arbres, il faut les couper parce qu'au bout d'un moment, ils arrêtent de capter du CO2. Alors effectivement, ils captent du CO2, ils en captent beaucoup s'ils sont dans un écosystème riche et dense en biodiversité. Donc si vous coupez un arbre, même s'il est vieux et qu'il capte un peu moins, c'est les sols que vous empêchez de stocker durablement. Les sols aujourd'hui, ce sont des puits de carbone, pas les forêts.
Et donc on relâche du CO2 exactement. Dans l'atmosphère, il faut aussi le savoir.
Après, il y a plein d'enjeux extrêmement techniques qui font l'objet de recherches aujourd'hui, qui est le feuillage d'une forêt verte qui va réduire ou augmenter l'albédo, renvoyer des particules très fines dans l'atmosphère qui vont peut-être aussi réchauffer. Donc, les forêts, c'est pas parce qu'on plante des arbres qu'on va sauver la planète du dérèglement climatique. Vraiment, ne vous laissez pas avoir par ces arguments qui peuvent sembler simplistes. Donc, effectivement, les fermes à papier, finalement, c'est un gros problème pour toutes les raisons qu'évoquait Mélanie. Et donc, il y a bien sûr plein d'initiatives internationales, européennes, nationales, pour essayer de comprendre qui sont les meilleurs fournisseurs, finalement, de la cellulose de bois, donc des fibres de bois qui vont servir à faire du papier. Parce que du papier, on peut en faire autrement aussi, on y verra peut-être plus tard, avant d'utiliser...
Quand on parlera des solutions, voilà, on y viendra.
Du cellulose de coton, pas du cellulose de bois, bref. Et donc, ces labels, ils ont été faits par des organisations mondiales, internationales, par exemple la WWF, hein, est au conseil d'administration du FSC, mais c'était des chercheurs au départ, protocole en 87, bref, et qui a été plutôt récupéré par des très très gros acteurs qui ont besoin de beaucoup beaucoup de bois pour faire beaucoup beaucoup de meubles.
Donc ce n'est pas peut-être si vertueux que cela.
Voilà. Donc il y a eu des problématiques, hein, de malgré tout de coupes rases dans ces exploitations-là labellisées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un FSC ou un PEFC, c'est uniquement la fibre de bois qui est certifiée, c'est-à-dire qu'on vous certifie que votre fournisseur et la forêt qui a été exploitée pour sortir ce bois, hein, tout simplement, qui va être utilisé dans l'industrie, a été fait dans les conditions de la charte du label, qui sont du coup une charte spécifique et privée qui a été définie. Par contre, dans le papier, il n'y a pas que de la cellulose de bois. Il y a plein d'autres choses. Il faut le blanchir, ce papier. Il faut lier les conglomérats de bois entre eux.
Donc des polluants.
C'est une partie. Voilà. Donc plein de polluants, effectivement.
Il faut de l'eau, il faut de l'électricité. Et l'eau, ensuite, il faut la dépolluer. Donc c'est vraiment une fabrication du papier qui questionne. Anne-Marie Bock, vous vouliez réagir?
Oui, alors je rebondis sur les deux interventions précédentes, puisqu'en fait, elles sont assez symboliques de ce qu'on souhaite à travers le programme IR pour la planète et notamment les rencontres de l'écologie pour le livre. Alors, on a été à la rencontre du public, on a expérimenté cette fresque dans des environnements extrêmement différents. Et ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, la conscientisation sur l'impact carbone dans le milieu professionnel, il est insuffisant ou il est peut-être émergent. Imaginez le grand public. Et ce qui est vraiment assez passionnant, c'est de pouvoir faire reprendre du champ. Parce que la lecture, c'est un acte intime. Parce que le livre, c'est un objet plein de symboles. Et d'amener le public à un moment donné, prendre ce recul et au final, de pouvoir s'intéresser à cet objet si symbolique, si important,
et qui, a des
qui au final le transforme intérieurement, toutes ces petites lignes invisibles qui bougent à chaque lecture. Il y a toute une somme de conséquences, en fait, en arrière-plan. Et tout ce qu'on a cherché à faire à travers ce programme Lire pour la planète, c'est justement faire se rencontrer des mondes. Parce que déjà, à l'intérieur, ce que je suis pas aussi pointue, hein, techniquement que les autres invités, mais néanmoins, On voit bien qu'il y a un écosystème complexe, ça c'est indéniable, mais quand même, comment en fait on apporte cette complexité auprès des grands publics qui sont décisionnaires? Et alors, grand public, j'inclus les médiathèques, les bibliothécaires et les médiateurs, hein, puisqu'ici on a également beaucoup travaillé avec les centres socioculturels, nos collègues du champ social, pour tous ces médiateurs qui sont aussi, à un moment donné, font des choix. Que ce soit sur les thématiques qu'ils traitent,
ou le type de livres qu'ils achètent, auprès de quelle maison d'édition.
Est-ce qu'ils achètent des livres d'occasion aussi, parce qu'on a une super librairie Emmaüs, de comment ils défendent les moyens pour obtenir des achats de livres, et à partir du moment où ils les obtiennent, sur quelle priorité ils fixent leur choix. Tout ça, en fait, on l'a éprouvé. Et c'est d'ailleurs ce qui me marque beaucoup dans cette année de label, c'est la sidération du public, du coup, de considérer à la fois l'acte de lecture dans le choix des contenus, oui, et à la fois l'acte d'achat ou d'emprunt, puisque la bibliothèque, au final, c'est une on va dire, c'est aussi un cercle vertueux, puisque ça crée du bien commun. Donc
conscientisant
ce petit bout de chemin que nous avons fait ici à Strasbourg,
on peut les rendre acteurs, en fait, eux aussi,
c'est ce que
de
nous avons
chaîne.
Cherché à faire. Et de fait, les rencontres internationales, on les a voulu aussi ouvertes au grand public, de façon à ce que tous, évidemment, avec les bonnes façons de pouvoir le partager, mais néanmoins, de partir vraiment en reprenant du champ, en documentant avec des personnes qui ont des compétences, une technicité, etc. Et puis, pour finir, tout ça, ça concourt à quoi ? À une forme de transformation aussi par la culture.
Concrètement, en vous écoutant, on a bien sûr parlé du papier, donc des forêts, des polluants, du côté problématique de la filière. On aurait pu rajouter les encres dites minérales, je crois qu'ils proviennent de la pétrochimie, les colles, le pelliculage, les films plastiques sur les couvertures, le blanchiment des pages, etc. Tout cela questionne quand même la production et donc la surproduction. Il suffit de voir les rentrées littéraires extrêmement riches. Est-ce qu'on peut dire que le secteur du livre alimente une surproduction ? Mélanie Mazan.
Ce qui est important de comprendre, c'est que l'économie du livre n'est pas si différente que tout un tas d'autres économies et d'autres secteurs que celui du livre. Contrairement à ce qu'on voudrait penser, puisque, encore une fois, le livre est à la fois un objet culturel, mais c'est aussi un produit industriel. Et donc, les logiques économiques, elles sont un peu les mêmes que dans les autres secteurs industriels. On fait souvent la comparaison avec le secteur de la mode et de la fast fashion sur les questions de surproduction. Eh bien, le livre, c'est exactement pareil. On a une économie qui est alimentée par le fait de produire de la nouveauté tout le temps, en masse.
Et de la nouveauté qui n'est pas toujours nouveauté, il faut quand même bien l'avouer. Il y a beaucoup de livres qui ont déjà été faits et on voit bien qu'il y a un nouveau livre ou un énième livre sur tel ou tel sujet qui existe déjà.
Oui, tout à fait. Donc il y a la question de sortir beaucoup de nouveautés tout le temps en masse. Et donc évidemment, il y a aussi cette question de ce qu'on appelle nous les livres de reproduction. C'est-à-dire qu'il y a des créneaux commerciaux, des modes, exactement comme dans le textile, dans la mode. Peut-être que vous avez vu passer des modes de livres de cuisine sur le Moyen-Orient, ou des romans de femmes dans la forêt, ou encore de féminisme occidental adressé aux femmes d'une quarantaine d'années. Où souvent on a un livre qui est original, qui apporte quelque chose, que ce soit de l'essai ou de la fiction, qu'on appelle un livre de création. C'est des catégories qui ne sont pas juridiques, des catégories philosophiques, souvent portées par une maison indépendante d'ailleurs. Et ensuite, ce livre marche très bien, et tout le monde s'engouffre dedans. Et donc là, on a pléthore de livres qui parlent de la même chose tout le temps. Voilà.
En tout cas, quand on voit les chiffres, c'est effarant. Charles Edouin, j'ai relevé quelques chiffres. En 2022, on comptait 536,8 millions d'exemplaires produits. Si je regarde les chiffres du pilonnage, ça veut dire que ce sont les livres qui ne sont pas vendus et qu'on détruit, en fait. On les met au pilon. Entre 2018 et 2020, selon le SNE, le Syndicat National d'Édition, ce sont 26 300 tonnes de livres qui ont été pilonnés, ce qui représenterait à peu près 80 millions d'exemplaires par an. Cela a de quoi nous faire réfléchir quand même.
Oui, complètement, et je me permets de rebondir. Merci Anne-Marie et Mélanie pour vos interventions, parce qu'effectivement, le livre étant un produit de l'esprit, finalement, on en oublie sa matérialité, son aspect physique. Peu importe qu'il soit imprimé, papier, ou numérisé, ou lu. Ça n'a pas besoin d'être un complot. Effectivement, toutes les économies aujourd'hui fonctionnent comme ça, dans un marché capitalistique, où on a besoin de volume pour avoir des revenus. Et l'industrie culturelle est la première à avoir du mal à envisager son marché, non pas comme un apporteur de propriété, de valeur, mais comme un apporteur de service, donc justement qui pourrait faire autre chose que du volume, mais faire que de la valeur. Voilà. Donc comment on fait de la valeur avec quelque chose de pas forcément matérialisé, pas forcément dans les formats qu'on connaît. Malgré tout, le livre, c'est très récent. Ça a 500 ans seulement, le livre. Mmh. Bon, ça a l'air d'être un objet rectangulaire, assez idéal, ça fonctionne très bien. En plus, c'est pas connecté, donc on peut vraiment être tout seul avec quelqu'un d'autre. C'est assez génial comme truc.
Si je comprends bien, le problème, c'est aussi qu'il semble très difficile de disposer de l'information quotidienne sur l'état des ventes de chaque ouvrage, d'où l'impossibilité d'ajuster au mieux les commandes. Est-ce que ça, c'est un vrai argument ou pas?
C'est ce que j'allais vous dire, justement, pour aussi qu'on comprenne bien de quoi on parle, et c'est le cas, merci Mélanie pour l'exemple de la fast fashion. Il y a un système qui s'appelle l'économie d'échelle. Aujourd'hui, un industriel, hein, qu'il soit de la culture ou d'autres choses, plus il produit, moins c'est cher de produire. Donc aujourd'hui, quand vous êtes commanditaire, donneuse ou donneur d'ordre auprès d'une imprimerie, c'est un système qu'on appelle l'imprimerie offset, qui fait que ça coûte cher au début. C'est un coût de calage d'une machine. Ça coûte cher à tout bien régler cette grosse machine qui peut parfois d'ailleurs tourner au 3-8, hein, l'écart. Donc il y a des gens qui sont chef opérateur, chef de machine offset qui vont travailler toute la nuit. Et du coup, au bout d'un moment, bah, normalement, ça va coûter moins cher vu que c'est déjà calé. Donc je peux imprimer le 1000+, on appelle ça, dans le métier. Donc votre imprimerie, elle va souvent vous proposer sur devis combien ça coûterait si tu en imprimes 1000 de plus. Et donc à l'exemplaire, ça revient moins cher. Donc il y a aussi une surfabrication. Au-delà de la surproduction. C'est-à-dire que j'ai pas la recette magique du best-seller, je sais pas lequel va vraiment marcher. Donc j'ai tendance à surfabriquer, en plus de surproduire plein de titres qui sont pas forcément nécessaires à l'humanité, j'ai aussi tendance à surfabriquer des exemplaires, ce qui explique ce gâchis. Et le pilon, juste pour rappel, c'est le terme maison en édition, c'est un marteau hein, industriel, le pilon. Donc on a gardé ce terme-là pour quand on détruit les productions pilonnage.
Je propose de poursuivre la discussion et d'envisager aussi les solutions, bien sûr, les initiatives avec vous dans un instant, après avoir écouté justement votre choix musical, Charles Edouin, qui est...
Arrivé sur Terre de Oxmo Puccino.
Et il y a une raison spécifique?
Pour se rappeler qu'effectivement, comme toutes les autres espèces et tout ce qu'il y a dans ce beau monde plein de vie, on est un petit peu là par hasard et qu'il faudrait peut-être être modeste vis-à-vis de notre présence ici.
J'ai longtemps pensé que nous vivions dans un asile à ciel ouvert. Avec du recul, j'ai découvert qu'on est tous de la même planète, mais pas du même monde. Votre dimension n'est pas nette, la mienne est profonde, en plongée constante, vu qu'à la surface l'apparence trompe. On ne sait plus qui est vivant. Je suis du même avis que David Vincent, j'ai saisi. Pourquoi souffrait tant d'innocents depuis que l'argent liquide entame sa disparition? Une ancienne espèce est en voie d'apparition, venue d'une galaxie lointaine, sans émotion ni notion du bien du mal. Attention au conflit final à Asrit. On sera bientôt les derniers animaux, visiteurs impolis, passagers en escale, venus lâcher bombe atomique. Cette terre n'est pas la nôtre pour la détruire ainsi. Je vois passer en étoile filante les chanceux qui ne sont pas arrivés sur terre par erreur. J'ai caché les preuves, les débris de ton vaisseau. Sur terre à la dérive, vous poussez SOS. Le cerveau se consume, faute d'assumer le fait. Je suis le scientifique surnommé l'artiste, presque distant, quasi autiste, accusé d'écrire depuis la lune. M'en fiche. La vérité ne sort plus de la bouche des enfants, mais de celle d'OX. On peut parler la même langue et rester débranché. Atterrir au même endroit, demeurer des étrangers. Raison pour laquelle l'amour t'en a tant manqué. Tu t'es demandé si t'avais pas été adopté. Les réactions t'ont tellement marqué. Tu doutes de la patère et de la maternité. Le nouvel ami, ta maman t'a mis à la porte. Ce comportement n'a rien d'humain ni d'unique. Il est cosmique. T'as pas connu ton père, le traite pas de tocard. T'es certainement arrivé sur Terre, mais sûrement arrivé sur Terre par erreur.
C'était Oxmo Puccino qui chantait Arrivé sur Terre, le choix musical de Charles Edouin. Et c'est la suite de Cause à effet, le magazine de l'environnement sur France Culture, depuis les studios de Ici Alsace, à l'occasion des rencontres internationales pour l'écologie du livre qui se déroulent à Strasbourg, capitale mondiale du livre UNESCO 2024. Avec nous toujours pour questionner et envisager une filière du livre plus durable et éco-responsable à chaque maillon de la chaîne. Anne-Marie Bock, chef de projet pour Strasbourg, capitale mondiale du livre. Mélanie Mazan, coordinatrice de l'association pour une écologie du livre et ancienne libraire. Et Charles Edouin, éditeur, ancien libraire, co-créateur de la fresque du livre et consultant RSE. Comment l'industrie du livre peut répondre aux défis écologiques et climatiques que l'humanité doit relever.
La Cabane Bleue est née en 2018 dans le métro parisien. On a eu l'idée de monter cette petite maison d'édition avec Sarah parce qu'on était hyper engagés, nous, personnellement, au niveau de l'écologie, dans notre vie personnelle. On a décidé donc de s'engager et de monter notre petite maison d'édition jeunesse pour sensibiliser les enfants à la beauté de la nature et à l'écologie.
La ligne éditoriale de la Cabane Bleue, du coup, c'est globalement des albums qui sensibilisent à la protection de la planète de deux façons. D'un côté, on a des documentaires qui font découvrir la nature aux enfants, qui leur donnent envie de la protéger en leur montrant toute la beauté du monde et la richesse de tout ce qui nous entoure. Et de l'autre, on a des albums des histoires, donc des fables, des contes avec une portée écologique assez forte. Vraiment, l'idée, c'est de donner envie aux enfants sans les culpabiliser.
La Cabane Bleue, c'est une maison d'édition qui fabrique et imprime ses livres en France. Donc nous, on a vraiment voulu faire des livres éco-conçus, des livres qui sont tous au même format, qui sont optimisés pour qu'il n'y ait pas de gâche papier, des livres qui sont non pelliculés, il n'y a pas de pellicule plastique dessus, pour être les plus écolos possibles.
On essaye de changer un peu les pratiques, de travailler en collaboration, vraiment en équipe, et de faire des choses à échelle humaine.
Exemple de la Cabane Bleue, maison d'édition plus impliquée, Charles Edouin, est-ce que ça peut être plus facile pour des indépendants que pour des grands groupes d'engager cette transformation en fait de la fabrication du livre ?
Oula, il y aurait trois ou quatre réponses différentes à votre question. Je vais essayer de faire simple et concis, et Mélanie et Anne-Marie reprendront et m'aideront.
Parce qu'il me semble qu'en fait, on voit beaucoup d'indépendants impliqués
oui,
aussi.
Complètement. C'est plus simple, effectivement, d'être nativement éco-responsable, si ça veut encore dire quelque chose, ce terme éco-responsable. Je vais garder le mot responsable, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, étant consultant RSE, donc responsabilité sociale et environnementale des entreprises, le terme de responsable, effectivement, c'est comprendre déjà les conséquences de ses choix et essayer de faire que ces conséquences soient les moins pires possibles, voire même les meilleures. C'est ce qu'on appelle le mouvement régénératif aujourd'hui. Pareil, il faudrait une heure pour en parler, je vais m'arrêter là. Donc un éditeur, une éditrice qui lance son projet, effectivement, on va dire que c'est plus simple, il y a moins d'inertie derrière lui ou elle pour lancer quelque chose qui est le plus vertueux à tous les niveaux. Mais économiquement, ça va pas du tout être plus simple, voire même ça va être un cauchemar, très sincèrement.
Ça veut dire que économie et durabilité...
Ça rime quand on a des
Ça ne fonctionne pas.
Si. Économie et écologie riment, c'est pas un hasard. Mmh.
L'écologie, mais durabilité et rentabilité, plus compliqué ?
Plus compliqué parce que ça va être sur le long terme. C'est-à-dire qu'il faut avoir des investisseurs derrière qui vous suivent pour vous dire « Ok, je ne vais pas avoir des retours sur investissement cette année, j'en aurai dans 5, 10, 15 ou 20 ans. » Mais en même temps, notre viabilité dans cet écosystème, elle se joue à 15, 20, 25, 50, 100 ans. Donc si on n'investit pas dès maintenant, pour avoir peut-être un peu moins de revenus tout de suite, mais encore pouvoir vivre dans 10, 15, 20, 25 ans, c'est à mon avis tout gagnant. Donc effectivement, des très très gros groupes qui ont des plus forces d'inertie, des actionnariats, aussi une vision transversale, pour pas dire horizontale, verticale, pour les initiés des modèles d'affaires, mais en tout cas qui sont sur tous les maillons, ce qu'on a peut-être aussi oublié de dire au début. Aujourd'hui, les conglomérats éditoriaux français et internationaux, ils vont être éditeurs-éditrices, ils vont être diffuseurs-distributeurs, ils vont être libraires, ils vont être presse aussi, voilà. Donc ils sont absolument partout. Donc la machine est encore plus dure à bouger.
En sachant qu'on voit des grands groupes hein, s'afficher ou avec une certaine volonté de faire changer le monde, je crois que Hachette avait annoncé sa décarbonation d'ici 2030, notamment, hein, j'en cite un peut-être parmi d'autres. Vous qui êtes au contact, justement, Charles Edouin, sans forcément donner des noms, mais est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose quand même en gestation ?
Je laisserai Anne-Marie et Mélanie reprendre. J'explique juste d'un point de vue très réglementaire, parce qu'aujourd'hui c'est très gros. Pourquoi ils annoncent ça ? C'est parce que la loi européenne leur impose. Ça s'appelle un rapport extra-financier. Ce sont les seuls qui font suffisamment de chiffre d'affaires et qui emploient suffisamment de personnes pour être soumis à ces réglementations, que sont donc Hachette, Editis. On a des volontaires, on a des bailleurs qui font leur bilan carbone, alors qu'ils sont pas obligés, c'est très bien, ils font bouger les choses. Et plein d'autres dont j'oublie là, désolé de pas les mentionner, mais il y en a beaucoup. La Martinière avec le Seuil, Média Participation, on fait des choses. Malgré tout, c'est parce qu'il y a contrainte réglementaire et législative qu'on met les budgets. Dans l'édition, on est assez pauvre, hein. C'est une petite industrie culturelle, donc il n'y a pas les sous pour mettre ça vraiment en place, hormis des très gros.
Alors, comment repenser la conception du livre de A à Z face aux enjeux écologiques et mobiliser tous les acteurs de la filière vers une approche plus durable et éco-responsable ? On était parti des forêts, notamment. Comment on fait ? Qui veut se lancer en reprenant peut-être les points les plus épineux, on va dire, Mélanie Mazan ?
La question de l'édition indépendante et particulièrement de la petite édition indépendante, oui, il y a des questions d'éco-conception, de fabrication. Et comme le disait Charles, il y a à la fois plus d'agilité et moins de moyens financiers. Donc il y a un équilibre à trouver. Mais si on sort un peu de la question de la fabrication et qu'on prend une approche écologique plus générale, les nombreuses maisons d'édition indépendantes, par définition, sont plus écologiques. Pourquoi ? Parce qu'elles sont nombreuses et en interdépendance. Elles ont l'habitude de travailler ensemble. Elles proposent une diversité éditoriale immense. Et c'est ça aussi l'écologie, c'est offrir une diversité. Qu'est-ce que c'est un écosystème écologique ? C'est un écosystème équilibré, divers. La biodiversité, c'est de nombreux éléments du vivant qui arrivent à pousser ensemble, à vivre ensemble, sans que personne n'écrase les autres au point de les mettre à mort. L'édition indépendante, ensemble, en tant que collectif, elle offre ça. Et ça aussi, c'est écologique. Et par ailleurs, sur les questions purement de production, naturellement, l'édition indépendante et la petite et moyenne édition indépendante produisent moins. Qui produit trop ? C'est pas l'édition indépendante. Donc, par essence, l'édition indépendante est plus écolo.
Donc vous êtes plus sur le système des 3 R, hein, réduire, réutiliser, recycler. Vous êtes peut-être plus aussi sur du circuit court. C'est plus facilement adaptable.
Alors, c'est un peu compliqué de parler de circuit court comme on l'entend généralement, par exemple pour l'agriculture, pour le livre, parce qu'on est face à un paradoxe avec le livre et en général la culture, qui est qu'il faut relocaliser la production, mais qu'il faut que le texte circule. On peut être sur un circuit court de production, travailler avec un écosystème d'artistes, d'auteuristes locales, imprimer proche du lieu de stockage. Voilà, ça c'est du circuit court de production.
Mais il y a aussi des livres qui sont internationaux, en tout cas qui ont été publiés dans de nombreuses langues, et ceux-là, il faut bien aussi les proposer aux lecteurs.
Bien sûr, et c'est le but. Sinon, on se renferme et c'est pas le but du livre. Le livre, il a pour objectif de dépasser les frontières, d'ouvrir les imaginaires, etc. Donc effectivement, il y a un paradoxe avec ça. Donc on peut parler de circuit court sur la production. Il y a aussi des livres qui ont vocation à être diffusés localement, bien sûr. Mais ça ne peut pas marcher pour toute l'économie du livre.
Et sur la fabrication en elle-même, est-ce qu'on peut fabriquer du papier à partir d'autres choses que des arbres ? J'ai cru lire qu'il y avait eu des tentatives à partir de feuilles mortes, hein, à partir aussi de pierres avec du polyéthylène. Charles Edouin.
On est typiquement dans ce qu'on se disait, effectivement, les très très gros, c'est difficile de les faire bouger. Donc ils vont absolument trouver des innovations, voilà, des nouveautés. C'est comme les publier des nouveaux titres. Ils vont secouer un petit foulard d'un côté pour qu'on oublie que le système en lui-même est problématique. Tout ce que vous évoquez sont des cas d'école qu'on a vu passer sur de nombreux réseaux sociaux qui n'ont aucune réalité ni économique ni écologique. Le papier de pierre que vous citez, effectivement, c'est un papier très polluant. En fait, c'est un papier qui répond à des demandes très spécifiques de résistance. C'est-à-dire que si je suis une bibliothèque, par exemple, dans le pôle sud, que je vais avoir des moustiques, des incendies, des inondations, ce papier résiste absolument à tout. C'est formidable, hein, mais c'est du pétrole. Voilà, très simplement. Avant, on faisait du papier avec des déchets de linge. Vous pouvez encore visiter des moulins à papier en Ardèche ou en Haute-Loire. Voilà. J'en connais un qui est très bien, Moulin Richard Debas, si ça vous intéresse. Des vacances culturantes, cultivées. N'hésitez pas à y aller. Et voilà, on fait du papier avec de la cellulose de coton. Le papier, on l'a fait au départ avec de la peau animale, avec le papyrus, c'est un papier végétal particulier, avant qu'on trouve la cellulose de bois, qu'on industrialise ça. Le problème, c'est l'industrialisation, c'est la massification. La solution, c'est toujours ça. C'est pas une nouvelle innovation, rajouter une couche et faire encore plus. Non, c'est accepter qu'il faut faire moins.
De même, le pelliculage plastique n'est pas forcément nécessaire. Hein. Les encres, on peut en trouver des végétales, etc., etc.
Effectivement, tout ce qui va être des arguments de protection de votre ouvrage, c'est des cas très spécifiques. Moi, j'ai été libraire dans des très grandes enseignes, pas des librairies de proximité, comme c'est peut-être le cas autour de la table. Et j'avais même des gens qui me demandaient de recommander un livre parce que le pelliculage mat ou ce qu'on appelle peau de pêche, soft touch, qui fait un effet tout doux à votre livre, ou juste brillant, non seulement ça va contraindre la fibre de bois, donc ça va faire plier votre livre, donc les gens n'aiment pas que la couverture s'entrouvre un peu, voire ça fait des rayures pendant la manutention, hein, tout simplement. Donc les gens, quand ils veulent offrir un livre à Noël et qu'il y a des rayures dessus à cause d'un pelliculage qui est censé protéger leur livre, en fait, c'est juste mettre de la palette aux yeux. C'est se démarquer sur un étalage de libraire avec plein de brillance, d'étoiles, de dorures et autres. Ça sert à ça, le pelliculage.
Alors, avant de vous donner la parole, Anne-Marie Bock, je vous propose d'écouter un reportage qui a été diffusé sur France 24 le 17 octobre 2023. Il parle du marché de l'occasion. On est dans ces solutions aussi. Je sais que vous aurez beaucoup de choses à dire. Et donc, ce marché de l'occasion se développe énormément au point d'inquiéter les éditeurs.
Ils sont des milliards à attendre sur nos étagères. Les livres que nous ne lisons plus font le bonheur de certains entrepreneurs. Car la seconde main rapporte. À Paris, les chauffeurs de recycle-livres n'arrêtent pas.
On a 2 voitures et collectent environ 2500 à 2700 livres par jour. Les clients, ils s'inscrivent sur le site internet. On leur propose un rendez-vous pour venir collecter les livres en question. Ou bien il y a une deuxième méthode, c'est les clients, ils viennent directement nous déposer des livres chez nous.
Aujourd'hui, Jason doit récupérer 200 livres à domicile.
C'est tous ces sacs-là, parce que comme je vous l'ai dit au téléphone, il y en a, il y en a à peu près 200.
Un soulagement pour cette grande lectrice envahie par les livres.
J'ai cherché partout, les bibliothèques, les associations, plus personne ne prend de bouquins. Et donc du coup, je suis allée sur le site, j'ai rempli mon truc et on m'a appelé 3 jours après.
Une fois collectés, les livres sont stockés dans des entrepôts géants.
1 million de livres dans celui-ci.
Ils sont triés en fonction de leur état, mais surtout de leur potentiel commercial.
Donc là, je vais scanner son code barre. Donc là, le système me dit qu'il est accepté. Cet algorithme qu'on a développé nous-mêmes, il nous dit juste est-ce qu'on est capable ou pas de le vendre, quel est son potentiel. S'il a un bon potentiel, on le prend. S'il n'a pas un bon potentiel, on ne prendra pas.
Cette année, on va vendre 1,5 million de livres. Donc 1,5 million de livres, c'est environ 8 000 arbres qui ne sont pas coupés chaque année. C'est bien entendu de l'eau qui n'est pas consommée pour produire ces livres. Et bien entendu, c'est du CO2 qui n'est pas produit. Et là, on se parle de 1 kilo de CO2 par livre.
Solution, pas solution, Anne-Marie Bock.
En écoutant tout cela, et d'ailleurs le sujet précédent, j'ai envie de faire un pas de côté, malgré tout, si vous me le permettez.
Bien sûr.
Puisque, quand même, la semaine dernière, on vient d'avoir une étude du Centre National du Livre qui fait quand même état d'une baisse historique du taux de lecture en France. Donc, moi, je situe quand même ça en lien avec la chaîne du livre. Parce qu'il faudrait aussi, quand même, qu'on puisse repenser cette chaîne pour avoir des lecteurs. Effectivement, ceci, je pense que c'est pas le fruit du hasard. C'est évidemment des enjeux sociaux, des enjeux démocratiques, comme ça ne fait aucun doute. Mais néanmoins, évidemment, ce qui peut aussi à un moment donné doit être discuté, c'est les nouveaux usages, c'est une nouvelle forme de lecture. C'est au final quelque chose sans doute à réinventer, parce que là on parle du livre d'occasion, mais du côté des bibliothèques publiques, on peut parler des boîtes à livres aussi, si on va
bien sûr, on va
jusque là. C'est
qui se développe.
Que donc,
aussi.
Il y a vraiment au final le marché du livre. J'ai le sentiment qu'il se réinvente envers et contre, enfin les publics, les acheteurs, les populations. Ça invente des canaux, eu égard aussi à la fois au contexte économique, au contexte social, à tout ce qui peut être le fruit d'arbitrage extrêmement serré, dans le cas de famille, par exemple, ou autre. Donc, cette chaîne du livre, aujourd'hui, il y a déjà l'enjeu d'avoir encore des auteurs correctement rémunérés, d'une part, et puis, d'autre part, je voit aussi sur ce territoire de Strasbourg, bien aussi quand même la fragilité du métier libraire, qui est quand même là aussi une étude complémentaire sur qui a été présentée lors des journées d'études de la librairie. Donc il y a quand même une fragilité importante, mais aussi des canaux, des nouvelles solutions. Donc j'ai l'impression qu'on est vraiment à un moment absolument charnière, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui devrait être très sérieusement pris en compte, c'est quand même cette étude sur la baisse de la lecture, qui de fait, la chaîne du livre telle qu'elle est envisagée avec cette dimension de surproduction, de surfabrication, en face, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en fait une baisse de la lecture. C'est pas gage d'extension des pratiques de lecture, d'avoir une surfabrication et une surproduction. Voilà, j'ai fait un petit pas de côté.
Non, mais intéressant, effectivement, d'apporter aussi toute cette nuance-là et ces éléments, Anne-Marie Bock, qui veut réagir, Mélanie Mazan peut-être
Sur le livre d'occasion,
par exemple.
Je suis tout à fait d'accord avec Anne-Marie sur la question de la lecture, ce qui souligne d'autant plus l'absurdité de ce système qui surproduit. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec 13% de pilons, 25 000 tonnes en 2023, parce qu'en fait, les livres ne trouvent pas lecteurs et lectrices.
Mais la part du livre d'occasion aurait doublé en 10 ans, ce qui représenterait entre 8 et 9% en valeur des achats de livres. Ça veut dire ça représente 20% du volume. Qu'est-ce que ça dit aussi, même si on entendait dans le reportage que la personne qui avait ces 200 livres à donner ne pouvait pas les placer dans des bibliothèques ou des associations parce qu'on ne les prenait plus?
Oui, c'est sûr qu'il y a une tendance à l'augmentation très forte du marché du livre d'occasion, comme dans d'autres secteurs, notamment par les plus jeunes générations, naturellement, par conscience écologique et aussi par enjeu économique personnel, on va se diriger vers l'occasion. Spontanément, on aurait envie de dire que c'est évidemment la solution écologique, puisqu'effectivement, on n'a pas à refabriquer. Alors oui, mais pas dans tous les cas. Puisque ce qu'on voit depuis quelques années, jusqu'à il y a 2, 3, 4 ans, le marché du livre d'occasion était tenu par les bouquineries, principalement, et les acteurs de l'économie sociale et solidaire, comme Emmaüs, par exemple. Et depuis 2-3 ans, on voit l'avènement des plateformes internet de vente de livres d'occasion. Certaines plus vertueuses que d'autres, d'autres pas du tout vertueuses d'un point de vue économique, politique et écologique. Ça, ça pose question, parce que du coup, on est sur une économie de plateforme avec des grands hangars, du stockage, du flux de transport, de la livraison à domicile, à l'unité, etc., etc. Donc ça, c'est pour les enjeux écologiques. Et puis ensuite, c'est sûr que c'est une question qui agite beaucoup l'interprofession, puisqu'il n'y a pas de droit d'auteur versé sur le livre d'occasion. Faut-il rémunérer les auteurs et les autrices sur le livre d'occasion? Une grande partie de l'interprofession dit oui. Une autre partie dit, est-ce que c'est pas déplacer le problème et est-ce qu'on devrait pas plutôt réfléchir à mieux rémunérer les auteurs et les autrices à la première vente?
Charles Edouin.
Je vais laisser de côté tout de suite les réflexes de gros sous qui sont liés hein, au livre d'occasion, parce que s'il y a cette levée de bouclier, cette peur que ça déséquilibre, non, c'est la peur de manque à gagner de très 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 gros acteurs, vu qu'il n'y a pas de, pour l'instant, de moyens, de levier de rémunération de leur côté pour réussir à capter ce qu'ils appellent littéralement capter de la valeur. Au Salon du Livre de cette année, ça a été dit comme ça pendant une table ronde professionnelle. Je vais y revenir plutôt sur un truc qui, moi, me touche extrêmement personnellement sur le livre d'occasion, tout simplement parce que je n'édite plus de livres. Parce que quand je rentre dans une librairie aujourd'hui, je suis littéralement noyé par les nouveautés, par les couleurs, les strass et tout ce qui se fait. Et je me sens complètement impuissant pour essayer d'apporter quoi que ce soit qui n'est pas déjà fait depuis des centaines d'années, ou ne serait-ce dans la semaine et dans les offices. Je vais juste dire ce que disait très bien dans ce reportage qu'on vient d'entendre, la personne qui n'arrive plus à donner ses livres. C'est encore une fois la preuve du syndrome du système, c'est-à-dire qu'on a créé des choses qui ont une obsolescence culturelle programmée. Donc on est dans la gestion de déchets. Pourquoi, vous allez me dire, on ne recycle pas tous ces livres pour en refaire des livres? Parce que ça coûte cher, en ressources, en argent. Que, pareil, ne vous laissez jamais dire que le recyclage à l'infini existe, que ce soit pour le verre, pour l'aluminium ou pour la cellulose de bois, ça n'existe pas. Il y a de la perte physique, hein. Lavoisier, le père de la chimie moderne, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Bah oui, mais dans des états qu'on n'est pas capable de récupérer parce qu'on n'a pas des tuyaux suffisamment perméables pour pas que ça s'évapore et autres. Et la fibre de bois, au bout d'un moment, ça se raccourcit tellement qu'on peut plus imprimer dessus. Voilà. Donc, bah, on gère ce qu'on peut revendre en la revenant, ce qui est très bien. C'est un travail incroyable qu'Emmaüs fait, effectivement. Ce que décrit Mélanie, c'est l'effet Vinted. Gros problème de la logistique. Effectivement, si les gens commencent à ne plus donner déjà leurs vêtements ou leurs livres, mais les vendre pour 1 euro, oui, parce que ça leur rajoute à leur cagnotte, ils vont continuer de le faire. Et ça a créé énormément de flux logistiques. Ce qui était le problème du papier aussi, parce que les pâtes à papier, elles sont faites en 18 essences de bois différentes, dans 3 ou 4 pays différents, et ça change tous les ans, puisque le cours est extrêmement volatile du bois. Et moi, ce que je réalise avec les boîtes à livres ou ce genre d'initiative, c'est que l'objet livre n'a aucune valeur. On considère que c'est le contenu qui est intéressant, pas le contenant. Donc cette matérialité, elle est très très vite dévaluée. Ce qui est un gros problème pour les éditeurs et éditrices, qui ont des stocks dormants qu'ils dévaluent comptablement tous les ans, c'est ça qui les embête.
Donc le livre numérique, c'est une solution?
Absolument pas, parce qu'on donne les pourcentages là de vente de livres d'occasion, on pourrait donner ceux d'émissions de gaz à effet de serre du numérique global. Et l'intelligence artificielle vient empirer encore plus les choses. Il faut réaliser quand même que des Microsoft ou des Google relancent des centrales nucléaires qui avaient des échecs commerciaux au niveau de l'État fédéral pour les besoins énergétiques de l'IA. Il faut vous dire à peu près dans quel monde on vit. Donc le livre numérique, c'est pareil. Il faut des infrastructures, il faut des câbles, il faut de l'énergie. C'est très polluant.
Et alors les solutions trouvées peut-être par certains libraires, Mélanie Mazan, c'est de faire une trêve chaque année.
Alors, je ne sais pas si c'est une solution, c'est en tout cas une interpellation.
Trêve des nouveautés. Hein.
Exactement. Donc effectivement, avec l'Association pour l'écologie du livre, fin 2023, on a lancé un appel à la trêve des nouveautés aux libraires qui voulaient bien l'entendre. Et donc l'idée, c'était d'entamer une recherche-action pendant 6 mois, en 2024, avec les libraires volontaires, et d'arrêter de prendre des offices. Donc les offices, c'est quoi? Ce sont les livres à la nouveauté. Donc les libraires pouvaient faire le format de trêve qu'ils souhaitaient, du plus radical, c'est-à-dire arrêter de prendre des nouveautés pendant 6 mois. Il y avait plusieurs objectifs. Il y avait un premier objectif, tout simplement, d'interpellation. De dire, on n'en peut plus, on est dans une marée de nouveautés, de mettre en avant l'absurdité du système. Et donc, il y avait vraiment cette idée d'interpellation, que ce soit des médias, du grand public, de l'interprofession, surtout et avant tout, dans un premier temps, sur cet enjeu de surproduction et de dépendance à la nouveauté. Donc ça, c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était de mener très concrètement une recherche-action avec les libraires volontaires pour voir, mais qu'est-ce que ça fait? Est-on si dépendant que ça à la nouveauté? Est-ce que les libraires peuvent reprendre la main sur ce qu'ils achètent? Est-ce qu'on est obligé d'adhérer à ce système de surproduction?
Et les effets, alors?
Eh bien, les effets, c'est que ça n'a rien changé. on a mieux vendu tout en achetant moins. Les clients et les clientes ne s'en sont même pas rendus compte. Parce qu'en fait, les clients et les clientes attendent 2-3 jours pour avoir le livre qu'ils souhaitent. Parce qu'on est, évidemment, les livres sont toujours disponibles à la commande.
Bien sûr.
Ça ne change pas grand-chose. Et puis surtout, ça a créé un espace de respiration pour les libraires. Plus de temps pour lire, donc plus de temps pour conseiller. Et puis, une prise de conscience.
À ce stade de l'émission, on arrive bientôt au terme. Alors, très rapidement, allez, si vous avez d'autres solutions à émettre.
Il y en a plein, hein, des solutions.
Oui.
Et qu'on en est tous porteurs et porteuses, hein, que ce soit éditeurs, éditrices, auteurs, autrices, libraires, mais surtout lecteurs et lectrices. Donc, que ce soit par une économie de la fonctionnalité très simple en allant louer ses livres. On vit dans un pays merveilleux, on peut lire gratuitement. Donc, aller en médiathèque, aller en librairie. Évidemment, le marché d'occasion, dans certains contextes, c'est quand même très bien. Donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, les grands textes, ils existent déjà sous tellement de formes. Enfin, les fables de La Fontaine ou les romans de Victor Hugo.
Pourquoi les republier dans une nouvelle forme, c'est ce que vous dites.
On assiste à une premiumisation du poche, c'est juste scandaleux. On voit des maisons de poche qui créent des éditions de luxe du poche. On arrive à des absurdités écologiques, économiques.
Les auteurs, les illustrateurs ont aussi peut-être un rôle à jouer auprès de leurs éditeurs.
Il faut conserver une émulation créatrice. Donc on n'est pas là pour dire il faut arrêter de publier, arrêter de créer. Non, il faut juste bien comprendre quels sont les usages de mon lectorat. Et en bande dessinée, en manga, il y a plein de choses super intéressantes qui viennent de plein d'autres pays qu'il faudrait creuser. Mais aussi des bibliobrairie, je crois, le terme. Si vous avez loué beaucoup un livre, bah vous pouvez l'acheter à prix cassé. Si vous voulez aussi des bibliothèques de gens qui vous racontent une histoire plutôt que la lire. Il y a plein de choses.
Plein de solutions. Anne-Marie Bock, le mot de la fin.
Il y a aussi un terme que je voudrais prononcer, c'est le mot de politique publique, puisque effectivement je m'exprime aussi depuis la ville de Strasbourg, qui est mon employeur et qui a vraiment fait ce choix de se positionner très très fortement sur le champ du livre et de la lecture.
Le rôle et des collectivités publiques.
Le rôle des collectivités publiques, mais qui sont quand même, il faut le rappeler, les principaux financeurs de la culture. À différentes échelles, donc à ce jour, enfin c'est quand même des décisions aussi qui ont des conséquences assez immédiates et au niveau local, donc assez immédiatement perceptibles par le grand public. Alors je veux quand même citer une décision extrêmement importante, suffisamment rare pour être dite, c'est que il a été voté une délibération extrêmement importante le 27 mars dernier, qui est la gratuité pour les 33 bibliothèques de la métropole de Strasbourg. Donc ça veut dire plus de 19 communes. Qui ont accepté. Ça veut dire aussi du temps dédié pour la médiation, pour accompagner les publics et pourquoi pas intégrer beaucoup plus ces enjeux du bilan carbone, de l'impact de la chaîne du livre dans, au final, l'action culturelle des médiathèques, mais aussi du temps pour, au final, créer les conditions d'une coopération locale où aujourd'hui, chacun est quand même beaucoup dans son silo, y compris à l'échelon local, voilà, et où toutes les parties prenantes de la chaîne ne sont pas forcément intégrées dans cette réflexion d'ensemble.
Et Strasbourg va transmettre le flambeau à une nouvelle ville capitale du livre,
Rio de Janeiro.
Et on imagine qu'ici à Strasbourg, bien sûr, et dans la région, vous allez continuer votre engagement en matière de transformation des politiques publiques, mise en œuvre de classe climat, de la culture, formation des acteurs locaux à la fresque du livre, beaucoup de choses, hein ?
Oui.
Merci beaucoup, merci Anne-Marie Bock, merci Charles Edouin, la fresque du livre à vivre plus que jamais. Mélanie Mazan a conseillé la lecture du manifeste « Le livre est-il écologique ?» édité chez Wall Project. Et puis merci aussi à Virginie Noël, adjointe au service communication de France Culture, à Frédéric Mouret, responsable technique de Ici Strasbourg. Bibliographie, information, tout est à disposition sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, où d'autres podcasts en lien avec le sujet vous attendent.